Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. D'abord, le gouvernement de la RDC repousse jusqu'au 14 janvier 2018 la mise en application de la mesure portant invalidation des passeports semi-biométriques. Annonce faite lundi dernier par le ministre des Affaires étrangères devant les députés nationaux. Ensuite, le gouverneur Alex Kandemupompa a été déchu mercredi dernier par l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Il lui est notamment reproché la mauvaise gestion et le détournement de plus de 3 millions de dollars américains. En même temps, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Nsingi, a aussi été déchu de ce poste hier jeudi par les députés provinciaux. Il lui est reproché, entre autres, une opacité dans la gestion financière. Pour aborder ces sujets, je reçois Rombo Otaba. Bonjour, confrère.
Hey, bonjour, Alain.
Vous êtes journaliste au journal Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Jean-Marie Nkambwa, bonjour.
Bonjour, chers confrères. Bonjour à tous nos auditeurs.
Vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir paraissant à Kinshasa. Georges Kassongo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des programmes et informations de Hope Channel TV, basé à Kindu, au Maniema. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Comment la presse chinoise a-t-elle traité les sujets que nous abordons ce soir et tant d'autres qui ont fait l'actualité cette semaine? La réponse dans cette revue de presse que nous présente Kevin Couté.
Bonsoir. Affaire passeport biométrique, l'avenir plante le décor du discours du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Tshéo-Kitundu. Selon le quotidien, Tshéo-Kitundu a fait part à la population des mesures de facilitation édictées par le président de la République. Pour les détenteurs de l'ancien passeport dont la date d'expiration arrive à échéance dans les années 2019 et 2020, l'acquisition du nouveau passeport se fera moyennant paiement d'un forfait de $100 américains au lieu de $185. La date de la mise en application de la mesure gouvernementale a été prolongée jusqu'au 14 janvier 2018, peut-on lire dans les colonnes du journal. Cette sur cette croit savoir que ces mesures ont été prises certainement pour faire baisser l'attention suscitée par les communiqués du 16 septembre dernier du vice-ministre des Affaires étrangères, lesquels annonçaient le retrait ou l'invalidation des passeports dits semi-biométriques le 16 octobre 2017. Pour ce média en ligne, cela ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un rétropédalage du gouvernement congolais et une demi-victoire pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contesté cette décision du gouvernement. Dans un tout autre registre, Actualité CD rapporte que le gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé, a été destitué de ses fonctions mercredi 4 octobre 2017 par l'Assemblée provinciale. Il est accusé des détournements des recettes et des violations des principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, précise le site d'information en ligne. Pour Forum des As qui commente cette actualité, le départ forcé d'Alex Kandé n'est pas vraiment une surprise. Rappelé à Kinshasa, quelques jours seulement après le début de l'activisme terroriste des miliciens Kamuina Sapu, il n'avait plus l'impérium et ne contrôlait plus la situation de sa province, fait observer le tabloïd. L'actualité est également marquée par la déchéance de Roger Nsingi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'après Forum des As, la conséquence de cette décision et que le désormais ex-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne peut plus l'engager, fait savoir le journal, expliquant que la motion de déchéance qui a entraîné sa chute a été initiée le 13 août dernier par sa famille politique, le MLC, qui lui reproche notamment l'incompétence et les manques de maîtrise du règlement intérieur. L'Avenir estime que le syndrome de déchéance qui a attaqué bon nombre de provinces de la RDC n'a pas épargné Kinshasa. Le journal précise qu'il est reproché au président déchu le non-paiement des salaire du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, des assistants et des fonds destinés aux commissions et groupes parlementaires. Et c'est loin de son fauteuil que Roger Nsingi a appris la nouvelle, relate la prospérité. Le quotidien rapporte que le président déchu, attendu jeudi pour présenter ses moyens de défense face aux accusations portées contre sa personne, a brillé par son absence.
Merci Kevin Couté. Rombo Otaba, vous êtes journaliste au journal Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la suite de cette tentative d'attaque de la ville d'Ouvira par des éléments Maï-Maï, attaque repoussée la semaine passée par la MONUSCO et les FRDC. Et cette actualité continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Comment vous l'avez commenté?
par rapport à ce qui se passe sur les plans politiques et même cette attaque-là. Alain, moi, je ne peux pas porter les gants pour dire tout simplement que l'RDC se trouve là comme un trou noir, et, disons comme dans une jungle. C'est de n'importe quoi maintenant là. On ne sait plus finalement qui dirige ce pays, qui le dirige. Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est... Donc, il y a un peu du désordre total. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui là, tous les Congolais, en tout cas à 90%, veulent que nous allions aux élections de sorte qu'on puisse voir clair dans ce pays, qu'on assiste à une alternance pacifique. Parce que si vous analysez tous les secteurs de la vie nationale aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs sont au rouge. Alors, il est temps qu'on s'arrête et qu'on mette les choses en ordre dans le pays. Tous ceux qui aiment ce pays, je crois que le moment est arrivé pour que... on remet de l'ordre.
Voilà, Jean-Marie Nkambois, vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir paraissant à Kinshasa. Selon des sources militaires, les assaillants seraient coalisés aux rebelles burundais. Comment vous comprenez cet aspect des choses?
Confrère, merci pour la parole. Je salue tous les auditeurs qui nous suivent à travers la République. Je vais d'abord constater que la RDC souffre d'un problème. Son problème le plus important, c'est la porosité de ses frontières. Ces frontières sont d'autant plus perméables que n'importe quel aventurier peut se permettre d'entrer au Congo et de déstabiliser facilement non seulement la population, mais aussi les gouvernements provinciaux. Au-delà de cette réalité, au-delà de la porosité, vous vous souviendrez avec moi que ces attaques-là surviennent au moment où il y a eu un débat au niveau de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le chef de l'État a demandé que les discussions puissent continuer en vue de la diminution des effectifs de la MONUSCO. En même temps, avant-hier, Guterres est monté au créneau afin de demander aux États-Unis de ne pas réduire son financement au sein de la MONUSCO, pour que celle-ci soit toujours à même de pouvoir accompagner les FARDC à mettre un terme à l'insécurité qui plonge notre pays. Il est vrai, confrère, que lorsqu'on est dans l'insécurité, rien de bon ne peut être fait. On ne peut pas construire, on ne peut pas faire l'agriculture, on ne peut pas nourrir la population. Et comme conséquence, c'est cette population-là qui va toujours demeurer très pauvre et qui n'aura aucune perspective pour pouvoir améliorer son vécu quotidien. Donc, c'est aussi une interpellation pour le gouvernement congolais, parce que l'insécurité en RDC a quand même duré trop longtemps. Et les populations de cette partie du pays vont souffrir jusqu'à quand? Je pense quand même que tout doit être fait afin que cette misère de la population soit diminuée et que la population puisse s'occuper de ce qu'elle connaît mieux faire. Ce qu'elle connaît mieux faire, c'est se débrouiller, c'est se battre, c'est faire de l'agriculture, c'est faire son commerce.
Merci.
Afin de pouvoir se développer.
Merci Georges Kasongo, vous êtes chargé des programmes et informations de Hope Channel TV, basé à Kindu au Maniema. Ces miliciens seraient venus de Rugongo dans les hauts plateaux d'Ovira, mais il semblerait qu'ils auraient également des connexions avec certaines milices au Maniema.
Voilà, nous pouvons dire qu'on a tellement parlé de l'histoire d'Ovira là-bas, c'est bien. Mais au Maniema, c'est pas naturellement au Maniema, même dans les Philippines, c'est 3 à 4 territoires qui ont été attaqués en l'espace de 3 jours. Là, il faut dire la localité de Nepanepa, près de Matala, dans les territoires de Shabunda, Matete, Kabambare Centre, Lusangi et Wamaza, dans les territoires de Kabambare, Mwanandeke, Lupaya, Tongoni, Samba et Malela, dans les territoires de Katongo, Likeri et ses environs, dans les territoires de Kibombo. Voilà comment est-ce qu'on a attaqué, les mêmes jours qu'on a attaqué Ovira, toutes ces localités ont été attaquées aussi dans ces 4 territoires. Ce qui nous pousse à imaginer comment, parce qu'au nom des assaillants, on parle d'une certaine milice appelée Malaika, hein, que dirigerait le Cheikh Hassan. Alors on se pose la question de savoir comment une milice est dirigée de quelques individus qui réclamaient une portion de la colline exploitée par Namo et Amaini, puissent avoir la capacité organisationnelle, balistique et opérationnelle d'attaquer 4 territoires en l'espace de 3 jours. C'est ça la grande question qu'on se pose ici chez nous. Heureusement que les FRDC sont intervenus et vraiment bloquer la danse et puis remettre de l'ordre un peu. Mais c'est une grande question qu'on pouvait soumettre à l'attention des décideurs et notables du maniement, de chercher à savoir qui est derrière cela et qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Nous savons que les Maïmaï Malaïka réclamaient l'affectation d'une partie de la colline aux ZEA. ZEA, c'est-à-dire zone d'exploitation artisanale. Il revendiquait cela, mais derrière ceci, on ne comprend plus rien. Si cette connexion il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière ces miliciens qui ont maintenant une capacité d'attaquer quatre territoires simultanément.
Merci Georges Kassongo. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Le gouvernement congolais repousse jusqu'au 14 janvier 2018 la mise en application de la mesure portant invalidation des passeports semi-biométriques. Annonce faite lundi dernier par le ministre des Affaires étrangères devant les députés nationaux. Léonard Chiokitundu répondait à une question orale du député Juvenal Munubo. En réaction, l'auteur de la question orale plaide pour que les attentes de la population soient satisfaites par le retrait pur et simple de cette mesure. Michel Kifindangoy.
À en croire le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, quand bien même la mesure interdisant la circulation des passeports semi-biométriques demeure importante, son ministère prend en compte toutes les revendications de la population face à cette mesure. Léonard Chiokitundu.
Pour les détenteurs de l'ancien passeport, dont la date d'expiration arrive à échéance dans les années 2019 et 2020, l'acquisition du nouveau passeport se fera moyennant paiement d'un forfait de $100 au lieu du prix coûtant de $185.
De son côté, l'auteur de la question orale avec débat estime que ces mesures d'assouplissement sont loin de répondre aux attentes de la population. Juvenal Munubo.
Le préjudice que cette mesure a causé aux nombreux compatriotes, je ne pense donc pas que l'allègement de cette mesure pourrait apporter une solution à ces nombreux compatriotes. Je n'ai donc aucun doute que vous apporterez de l'eau à mon moulin et qu'à travers les débats, nous convergerons plutôt vers une décision qui rencontre les aspirations du peuple congolais.
Au cours du débat, plusieurs députés ont plaidé soit pour le retrait de cette mesure ou alors pour l'octroi gratuit des passeports biométriques à tous les détenteurs des passeports semi-biométriques.
Merci Michel Kifindango. Jean-Marie Nkambo, vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir paraissant à Kinshasa. Visiblement, en RDC, il se pose un véritable problème en ce qui concerne la gestion des imprimés de valeur. Ce sont les passeports, tantôt les permis de conduire. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation?
Monsieur Alain, je pense, à mon avis, qu'il y a un problème au niveau du gouvernement. Le problème, c'est en quelque sorte, comment prendre une décision? Quelle décision pouvons-nous que le gouvernement peut-il prendre afin de rencontrer les avis de la population? Et dans quel contexte le gouvernement peut-il prendre une décision? Voilà, c'est autour de toutes ces questions-là que moi je pense qu'il faille réfléchir pour que prochainement le gouvernement puisse corriger les tirs. Parce que on ne peut pas aussi se permettre, je pense que les députés, lors du débat qui était organisé au Parlement, les députés ont eu suffisamment à commenter. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'on ne peut pas aussi se permettre, dans un contexte pareil, où la population a du mal à nouer les deux bouts du mois, on ne peut pas vraiment se permettre de prendre certaines décisions sans pour autant comprendre ou bien analyser quelles peuvent être les conséquences au niveau de cette population qui est déjà surchauffée par rapport au climat politique morose. Je pense que le gouvernement devait se mettre à la place de la population, réfléchir et prendre des bonnes décisions qui s'imposent pour que cette population ne puisse pas de plus en plus se fâcher. Parce que si la population se fâche aujourd'hui, ça ne sera pas contre les vice-ministres Toto Matembo ou les vice-premiers ministres Chiokitundu. Mais elle va directement vers le chef de l'État. C'est celui-là qui a reçu le mandat de la population. C'est celui-là qui est censé protéger cette population et qui avait voté pour elle.
Jean-Marie Nkambo.
Oui.
Jean-Marie Nkambo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Chiokitundu, a annoncé certains allègements. Est-ce que cela peut soulager tant soit peu les requérants?
Oui, oui, voilà aussi pourquoi l'avenir avait bien dit pour Cypre que c'était Kabila qui s'était impliqué dans la mesure où la façon dont les climats politiques évoluaient, on ne pouvait pas s'empêcher de dire qu'on évoluait vers l'inconnu, on évoluait vers une situation de crise, vers un conflit, vers un frottement, raison pour laquelle le chef de l'État, ayant compris que la décision n'avait pas été bien motivée, n'avait pas été bien expliquée à la population, étant donné que la décision n'avait pas été prise dans l'instant qu'il fallait, alors trouver une formule afin que la population ne puisse pas de plus en plus se fâcher. Raison pour laquelle ces facilités-là ont été annoncées, même si ces facilités ont été annoncées, mais pour ceux-là qui sont déjà frappés par la mesure, ou bien ceux qui sont à l'étranger, ou bien ceux-là qui doivent encore débourser 100 dollars pour d'autres formalités, ce sera toujours trop leur demander, d'où la nécessité, comme certains députés l'ont proposé, et on peut tout simplement annuler les 100 dollars pour permettre à quiconque a son passeport valide de pouvoir aller au ministère des Affaires étrangères.
Merci.
Et de faire un nouveau passeport.
Voilà, Rumbo Taba, vous êtes journaliste au journal Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Jean-Marie Kambwa estime que c'est une décision impopulaire. Il parle de l'implication du président de la République pour alléger cette mesure. Ne faudrait-il pas simplement, comme l'ont souhaité certains députés, annuler cette mesure?
Une mesure comme ça, aux conséquences sociales incalculables, ne pouvait pas être prise comme ça à la légère. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que M. Okutundu a annoncé là, c'est de la simple diversion. Les Congolais attendent le retrait pur et simple de cette mesure-là. Il n'y a pas d'autres allègements à prendre. D'abord, même les 100 dollars dont il parle là, il parle avec toute la négligence, avec la hauteur, comme si 100 dollars aujourd'hui, pour les Congolais, c'est une bagatelle, les sommes qu'on peut ramasser comme ça dans la rue. Et un directeur de la fonction publique. Un directeur, je dis bien un directeur, tous aujourd'hui combien? À peu près 50 dollars, 60 dollars. Et vous allez dire comme ça que non, voilà, c'est lui qui a les passeports, peut les changer à moyennant 100 dollars, comme ça là, sans étendre d'âme. Donc ce qui prouve quelque part que nous sommes là en face des gens qui ont le cœur ailleurs, qui ont la tête ailleurs, qui ne comprennent pas qu'ils sont une lourde responsabilité défend le peuple congolais.
Mais cette mesure, initialement, devait entrer en vigueur au 15 octobre, mais repoussée au 14 janvier 2018. Le gouvernement aurait-il cédé à des pressions?
Oui, mais justement, mais je suis sûr que même ce vice-ministre-là, lorsqu'il a pris cette mesure-là, il savait que c'est comme si l'expression de Kino, là, tiens, Moutouba Kata. Donc il a fait comme ça, sachant qu'advienne que pourra, pourvu qu'il tire les dividendes de cette opération-là. Parce que d'abord, le fond du problème, la RDC n'est pas un pays extraterrestre. Pourquoi est-ce qu'un passeport qui n'est qu'une pièce d'identité doit coûter aussi cher que cela? Est-ce qu'ailleurs on ne peut pas voir ce qui coûte un passeport? Pourquoi d'abord ces montants à l'élève? Et pourquoi aujourd'hui vouloir mettre tout, asphyxier les Congolais? Donc c'est comme si tout est fait pour vraiment asphyxier les Congolais qui ne respirent plus, qui meurent. Bon, et puis je ne sais pas quel dividende ils vont tirer après toutes ces opérations qu'ils sont en train de mener.
Je posais la question tout à l'heure à Jean-Marie Kambwa de savoir si il ne se posait vraisemblablement, voilà, j'y arrive pas, un problème de gestion des imprimés de valeur. On a le problème des passeports et il s'en est rajouté celui des permis de conduire.
Et vous vous arrêtez bien là, mais il y a encore bien d'autres. Toutes ces recettes de la DGRK, tout ça, lorsqu'on voit l'état de la ville de Kinshasa, peut-être on a pas. Mais ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ne pas me redire, le pays a aujourd'hui besoin d'une nouvelle race. Des gestionnaires. Donc c'est pas il faut s'attaquer au fond des questions, pas colmater les brèches. Il faut vraiment une révolution, alors une véritable révolution de gestion des mentalités.
Georges Kasongo, vous êtes chargé des programmes et informations de Hope Channel TV basé à Kindu Omanyema. Comment cette actualité concernant les passeports est commentée dans la province du Maniema?
Nous croyons qu'avec tous les bruits qui s'ensuivent autour des passeports, nous pensons que c'est une façon de détourner l'attention de la population congolaise qui reste focalisée sur les dates du 31 décembre et aussi la publication du calendrier électoral. Imaginez que l'histoire des passeports, sur les 80 millions d'habitants qui compteraient le Congo, il n'y a même pas 10% des Congolais vivant au Congo qui en détiennent. Donc la moyenne de 8 millions, on ne pense pas, même 8 millions 5, ça, il n'y en a pas. Pourquoi tout ce bruit autour du simple pied d'identité, à même titre qu'un permis de conduire, une carte d'électeur, tout cela? Et vous savez que les passeports congolais seraient au moins plus chers, puisque dans toute la zone ici des Grands Lacs, nous pensons que c'est parmi les passeports les plus chers du monde. Mais comment on peut, en tant que gestionnaire de la chose publique, prendre une décision comme si on dirait que le Congo va s'arrêter demain? Et pourtant, tout passeport délivré a une durée, un délai légal de 5 ans qui est bien là. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer d'abord par délivrer de nouveaux passeports biométriques en attendant que chaque passeport mécanique, semi-biométrique, électronique, manuel qui arrive à terme puisse être banni de la circulation? Est-ce que ça ne serait pas ça la bonne chose? Mais dire que on se réveille le matin et dire que non, tous les passeports, ça s'arrête là. Vous voyez que c'est dans ces pays où on a vu le matin quelqu'un se réveiller et dire que je démonétise les Zaïre et dans la monnaie. Ce sont dans la même.
Mais Georges,
c'est comme si l'histoire se répète.
Georges, les autorités congolaises ont notamment évoqué des raisons de sécurité. Est-ce qu'elles n'ont pas raison?
Les raisons de sécurité autour des passeports, cet argument ne tient pas debout. Monsieur le journaliste confrère qui disait, imaginez-vous que tout ce qui se passe à Uvira, tout ce qui se passe dans le Nord Kivu, dans l'espace Grand Kasaï, au Maniema actuellement, c'est autour des passeports. Est-ce que ce sont les passeports qui sont à la base de tous ces colons à commandement? Non. Il y a des intérêts égoïstes autour du pécunia, des intérêts pécuniers qui sont là, parce qu'on connaît autour du passeport, il y a des dividendes, celui qui va imprimer, celui qui a droit, c'est là, celui. Voilà comment on est en train de diriger. Donc c'est comme on était en train de parer au plus pressé. Donc l'argument sécuritaire en soi, nous vivons l'insécurité presque endémique. L'histoire des passeports vraiment autour de la sécurité de ce pays, à mon avis, j'estime que ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout.
Merci. Jean-Marie Nkambwa, Georges Kasongo estime que cette affaire sert simplement à détourner l'attention du peuple congolais par rapport à la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, je voudrais quand même calmer Georges, parce que la vie congolaise ne se résout pas tout simplement à l'organisation des élections en RDC. La vie congolaise est aussi les défis quotidiens de la population que le gouvernement doit s'atteler à améliorer. Je ne pense pas que nous pouvons tous fermer les yeux et nous réveiller tout simplement au mois de décembre pour pouvoir aller aux élections. Sinon, comment irons-nous voter affamés, en difficulté, et ainsi de suite, des raisons pour lesquelles le gouvernement est là, afin de tenter de soulager la misère populaire, afin de tenter de faire des choses qu'il n'y ait pas ceux qui souffrent d'une quelconque mesure par rapport à d'autres. Je voudrais aussi dire un petit mot à mon confrère Rombo, qui a été pris par le ministre Toto Matembo, tout le monde l'a compris comme une erreur, que le gouvernement est en train de corriger. L'erreur est humaine, l'erreur peut être commise, mais il ne faudra pas dire, parce qu'il y a une erreur quelconque, que tous les gouvernements, tous ceux qui composent, tous ceux qui ont été au Parlement, tous ceux qui ont présenté le programme d'action du gouvernement sont aujourd'hui des médiocres. C'est quand même trop. Je comprends le problème des Rombos. Je comprends la misère de la population congolaise. Et des fois, on est obligé de nous exprimer comme tel parce que la misère est possible.
Jean-Marie, vous dites que le gouvernement est en train de corriger cette erreur. Est-ce qu'il le fait de la bonne manière?
Oui, il est fait de la bonne manière. Vous savez, il y a un gouvernement qui dirige, il y a une opinion, il y a des partis politiques et consorts. Donc le gouvernement est là, même s'il dirige, mais il est aussi obligé d'écouter un autre son de cloche. Il est aussi obligé d'écouter ce que les syndicalistes, les partis politiques et consorts disent à son propos afin d'améliorer son agir. C'est en cela que l'on peut apprécier les capacités d'un gouvernement à pouvoir s'adapter par rapport à des situations qui se présentent. Donc un gouvernement, c'est ça. C'est de savoir trouver des solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la population. Et merci. Là, nous nous rendons compte que par rapport au débat qui se déroule au Parlement, donc nous sommes en train d'aller dans ce sens-là pour que la décision qui sortira de ces débats ne puisse pas être très mal perçue par la population congolaise.
Merci. Rombo, est-ce que le gouvernement est en train de corriger cette erreur de la bonne manière?
Non, de la mauvaise manière. D'abord, est-ce que c'était le moment propice pour aller soulever ces problèmes-là? Parce que déjà, le gouvernement a plusieurs fronts. Aujourd'hui, il y a le front social avec les fonctionnaires, les médecins, les infirmiers. Et Dieu merci que les hommes en uniforme ne sont pas habilités à entrer dans cette danse-là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'était le moment d'abord propice pour que ce vice-ministre-là aille soulever encore aille jeter le pavé dans la mare en prenant une telle mesure inique? Et aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est le retrait pur et simple. Moi, je ne vois pas comment mon ami Jean-Marie peut dire que le gouvernement fait de la bonne manière. $100 aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un qui a son passeport encore valide de débourser $100. Et comme si le climat socio-économique était encore bon, propice pour aller demander encore à quelqu'un d'aller débourser $100. Moi, je crois que tout ce que les Congolais attendent aujourd'hui, c'est le retrait pur et simple. Et je crois qu'il n'y a pas de honte à cela pour que le gouvernement Tshibala puisse... D'ailleurs, ça n'a pas été pris en conseil des ministres. C'était une affaire de sous fomentée par un groupe d'individus. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la plus belle manière, c'est de s'humilier, retirer cette mesure-là, et la vie va continuer.
Merci.
C'est pas de cette manière-là.
Georges Kassongo, nous allons aborder tout à l'heure notre deuxième thème, mais avant cela, comment vous vous entrevoyez à la suite de cette affaire?
En tout cas, nous demandons aux élus, les députés nationaux, de tout faire, de tenir les coudes, en tout cas pour obtenir l'annulation, les reports de cette décision inopportune, anticonstitutionnelle et impopulaire. Les passeports doivent courir jusqu'à l'expiration de leur délai légal, et cela, nous chargeons les députés pour faire suite à cela. Imaginez-vous que quelqu'un comme moi, j'ai obtenu mon passeport il n'y a pas une année, et qu'on me dise que maintenant, là, il doit être annulé. Vraiment, c'est une décision dont on n'arrive même pas à comprendre les motivations. Ça, comme dans notre démocratie congolaise, le fait qu'il ne doit plus être écouté, nous donnons la charge aux députés de tout faire vraiment pour obtenir que cette décision soit rapportée.
Merci beaucoup. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Adoption mercredi à Kananga de la motion de censure contre le gouverneur Alex Kandé. Le vote a eu lieu à l'Assemblée provinciale du Kasaï central en présence du vice-gouverneur Justin Milonga. Sur les 21 députés présents dans la salle, 17 ont voté pour et 4 contre. La mauvaise gestion et l'un des griefs retenus contre l'équipe Kandé. Reportage Blaise Ndongala.
Élu du territoire de Kazumba, le député Sébastien Mutu-Djemou estime que le vote de cette motion est l'expression d'un coup qui avait été déjà préparé depuis longtemps par les députés motionnaires.
Tout a été prévisible, la messe a été déjà dite, ce n'est qu'une petite célébration. Tout était connu d'avance qu'il y avait déjà 16 électeurs sur 22 députés qui siègent actuellement dans notre assemblée. C'est quelque chose qui a été déjà conçu. Vous vous souviendrez qu'il y avait la soi-disant session extraordinaire qui avait apporté, qui avait comme matière la motion de censure contre le gouvernement. C'est cette motion-là. Vous voyez même la vitesse avec laquelle nous sommes allés. Tout a été déjà conçu, ce que je peux te dire.
Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central est d'avis que la démission du gouvernement Kandé ne va pas entraver, comme pensent certaines sources, la bonne marche des institutions provinciales.
Il existe une commission budgétaire en dehors de l'exécutif provincial. À la date d'aujourd'hui, cette commission-là, selon la loi des finances, elle devait déjà avoir terminé les projets de budget ou l'avant-projet de l'édit budgétaire. Dans l'administration, il y a la continuité. La CENI va s'activer pour nous donner un autre gouverneur qui va travailler avec la commission provinciale pour nous donner un budget que nous allons adopter pour l'année prochaine.
Pour rappel, cette motion de censure est votée alors que le gouverneur Alex Kandé est à Kinshasa depuis février dernier. De Kananga, Blaise Ndongala, Radio Okapi.
Merci Blaise Ndongala. Entre-temps, à Kinshasa, Roger Nsingi, président de l'Assemblée provinciale de cette ville, a été démis de ses fonctions hier jeudi. Il lui est notamment reproché la mauvaise gestion et l'incompétence. Pour sa part, Roger Nsingi rejette cette destitution qu'il qualifie d'illégale. Pour lui, ne peut convoquer la plénière de la plénière que le président de l'Assemblée provinciale. Le vice-président qui l'a fait n'a pas cette qualité. Roger Roger Nsingi qui saisit la justice pour qu'elle tranche. Voilà, Georges Kassongo, vous êtes chargé des programmes et informations de Hope Channel TV basé à Kindu au Maniema. Tout récemment, c'était la déchéance du gouverneur de l'Équateur Tony Bolamba. Maintenant, c'est le Kasaï central et le président de l'Assemblée provinciale de la province de Kinshasa n'est pas en reste. Visiblement, ça bouillonne dans les assemblées provinciales.
Voilà, c'est ça, parce que commençons par le Kasaï central où son Excellence Alex Kandé est évincé de ses fonctions sans être entendu, et pourtant c'est à contrario avec la constitution de notre pays, notamment l'article 17 in fine où on dit que toute personne acquise, on lui accuse de mégestion, de ceci, juste des termes purement génériques, mais jusque-là, il fallait détailler de quoi il est reproché. Et surtout lui donner la chance de s'exprimer. Du fait que la motion ait été votée in absentia, on pense que tout a été déjà dit, et la messe était déjà dite, et il ne restait qu'à dire amen. Imaginez-vous le fait qui illustre que Alex Kandé Mupomba n'était plus la bienvenue au Kasaï, parce qu'il aurait été empêché par deux fois de retourner au Kasaï. Il a été épargné, évité ou bien empêché de participer au forum sur la paix et la réconciliation dans l'espace Kasaï, vraiment. Et surtout, cette précipitation. Imaginez-vous que les assemblées provinciales ont ouvert, je crois, les 30, la fin du mois, et que la motion ait été acquise, donc réceptionnée les deux, et les quatre ont passé à la vitesse supérieure. Moi, je pense que les députés auraient, s'ils étaient de bonne foi, auraient demandé d'abord que le gouverneur revienne au Kasaï, qu'il s'exprime. Mais comme si tout cela n'a pas été suivi, nous supposons que la messe était déjà dite quelque part et il ne restait qu'à l'Assemblée de dire amen. En ce qui concerne le président Roger Nsingi Mbemba, et que je connais bien pour avoir été le père de mon ami à Kinshasa, à Nchili précisément, et nous voyons que c'est la démocratie qui se porte bien. Il a été élu par ces mêmes députés aujourd'hui qui ont décidé de l'évincer. Vous savez, il est élu sur la liste du MLC, avec donc pour un total de 24 députés, si je ne m'abuse pas, en 2006. Alors aujourd'hui, on pressentait qu'il n'avait plus la confiance d'abord de son parti politique, le MLC, et il résistait là pour des combines politiques, et actuellement c'est comme si on a lâché du lait.
Merci.
Il va tomber, mais devant sa décision de dire qu'il va poursuivre en justice, bon, c'est des droits de chacun. Mais on dit qu'il était là, il était attendu, il était appelé pour s'exprimer. Nous pensons que c'est l'Assemblée a siégé valablement avec le vice-président.
Merci.
Parce que lui a été empêché, même si il n'était pas là.
Merci. Jean-Marie Cambois, vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Certains observateurs pensent qu'il est temps de faire une évaluation du processus de décentralisation en RDC, en passant entre autres par les assemblées provinciales.
Oui, mon frère Alain, je pense que le moment est venu afin de pouvoir en discuter pour pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même énumérer quelques petits points que je trouve importants, que je trouve importants dans la gestion de nos provinces, pourquoi pas, du processus de la décentralisation. D'abord, confrère, il y a les choix qui sont faits sur des individus. Il est vrai que dans nos provinces, lorsqu'il faut compétir, il faut donner un nom dans un parti politique, il y a la majorité présidentielle et l'opposition. Je me demande quel est le profil qui est défendu par les uns et les autres. Parce que si le profil quand même était bien étudié, était bien jugé et comme ça, on ne nous amènerait pas n'importe qui. On ne nous amènerait pas des gens qui n'ont pas des profils, les gens qui n'ont jamais géré, ou bien des gens qui n'ont pas excellé partout où ils ont toujours été. De deux, je vais parler des réformes. Dans beaucoup de sociétés, surtout la société chinoise que j'ai eu à visiter, c'est une société qui est fondée essentiellement sur les réformes. Les réformes, c'est-à-dire que c'est le rejet de la précipitation, c'est le rejet du règlement des comptes, c'est le rejet des problèmes et consorts. Lorsqu'on entreprend des réformes dans l'État, et ces réformes en question doivent produire des fruits escomptés et qui sont partagés par toute la population. Mais lorsque vous vous rendez compte que la réforme a du mal à pouvoir être acceptée par la population, moi je pense qu'il appartient aux décideurs et consorts de pouvoir faire marche arrière et puis trouver ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre qu'un gouverneur qui a été élu, qui a défendu un programme d'action, mais qui est incapable de pouvoir les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il doit développer d'autres méthodes de gestion opaques comme la corruption, comme les détournements, comme l'impayement et consorts, pendant qu'il est avéré que l'argent est là et c'est de son chef qui ne fait pas repayer. Donc il s'est vraiment posé dès le départ un problème d'homme, un problème de réforme. Je voudrais aussi dire qu'il se pose aussi un problème de l'état des droits. L'état des droits suppose que vous avez une justice indépendante. L'état des droits suppose que lorsque quelqu'un a été soupçonné tout simplement d'avoir détourné, il faut que la justice se mette en branle afin de traire la personne et prouver si oui ou non il est coupable. Mais lorsque la justice laisse certaines situations de la sorte, ça ne fait que nous laisser nos populations perplexes. Et pourtant, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui est les remparts du peuple congolais.
Merci.
À un moment donné, je me demande, mon confrère Alain, je me pose la question de savoir quelles sont les affaires de corruption que nos enfants et nos frères vont étudier dans les universités. En RDC, il n'y en a pas pratiquement.
Merci.
Donc tous ceux qui ont été soupçonnés de corruption et consorts disparaissent dans la nature et on ne peut même plus mettre la main sur eux.
Merci.
Nous avons une justice.
Merci Jean-Marie Kamboy, il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission. Rombo Taba, vous êtes journaliste au journal Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Tout ce qu'on observe dans les assemblées provinciales sont, selon certains analystes, à mettre sous le compte des balbutiements du fonctionnement de la démocratie. Est-ce que vous comprenez ce point de vue?
Non, je ne crois pas. Hein, les balbutiements sur le plan démocratique, c'est se manifeste pas comme tel à RDC. Je peux tout simplement parler de que nous nous trouvons là dans un gangstérisme politique. Puisque si vous voyez d'abord, parce que tout tourne maintenant autour des fonds, tout ça, qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit que les provinces, lorsqu'elles produisent des recettes, elles retiennent 40%. On ne dit pas que c'est Kinshasa qui reverse ou quoi, mais ça ne se fait pas. Donc on a développé un autre système de gestion de la res publique en RDC. Donc les conséquences sont celles-là. En ce qui concerne M. Kande Ntsingue, c'est là je dis que le vagabondage politique ne paye pas. Regardez le parcours de ces gens-là. Quand il est parti du Mercier de la manière la plus désagréable, aujourd'hui il a rejoint ce camp-là. Il est en train de payer ce qu'il a semé. Moi personnellement, je ne peux pas avoir pitié de lui, bien que la manière dont il a été destitué est en dehors de la loi est anticonstitutionnelle. Donc ce sont les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui dans le pays du gangstérisme. Regardez Ntsingi, ce qu'il a fait par rapport au MLC. lors de l'élection de gouverneur Kimbuta. C'est lui qui a conduit Kimbuta là où il est aujourd'hui. Regardez l'état dans lequel se trouve la ville. Kimbuta n'a jamais été secoué, tout simplement parce que Ntsingi était là. Comme je suis sûr qu'aujourd'hui, s'ils vont se séparer, c'est certainement pour des raisons toujours pécuniaires dont ils ne se retrouvent pas. Alors, l'autre a pris les devants pour les massacrer, les sacrifier. Donc, tourne autour de ça. Et je crois que vraiment, s'il y a des nationalistes, il y a des gens qui aiment ce pays, tout le monde doit se mettre d'accord pour qu'on aille au plus vite possible aux élections. Et que Corneille Nanga cesse vraiment l'aventure dans laquelle il fait entraîner le peuple congolais aujourd'hui.
Et donc, vous pensez que les élections vont amener des paris cochés, des nouvelles assemblées provinciales et un nouveau souffle?
Non, justement, mais quand on fait on parle de l'alternance, ce n'est pas que demain le RDC va devenir un pareil. Mais à chaque génération, à chaque race de politiciens, nous aurons peut-être un changement. D'abord, tout ce monde-là, les députés provinciaux, les gouverneurs, ils sont en dehors de leur mandat depuis des années. Donc nous avons besoin aujourd'hui que le Congo puisse redevenir d'abord un état normal. Puisque nous sommes en dehors, nous œuvrons en dehors vraiment de la normalité. Donc il faut que nous puissions revenir d'abord un état.
Alors nous avons eu deux thèmes ce soir. Rombo Taba, il nous reste moins de 3 minutes. Quelle est votre conclusion?
Tout ce que moi je souhaite vraiment, que les hommes au pouvoir qui sont en train de manipuler la CENI aujourd'hui pour que les élections n'aillent pas allier, et pitié du peuple congolais, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont là pour un mandat et qu'ils ont intérêt à laisser un nom digne d'eux dans l'histoire de ce pays et qu'ils ne partent pas par la petite porte.
Merci. Georges Kassongo, quelle est votre conclusion? Comment vous entrevoyez l'avenir des assemblées provinciales en RDC?
Voilà, les élections restent une panacée pour la classe politique en RDC. Vous voyez, l'usure et la longévité du pouvoir a lancé la classe politique dans une rixe d'intérêts et le peuple dans la barrière. Mais de l'autre part, nous demandons au gouverneur Alex Kande, tout comme à mon père Roger Singh, de vouloir bien se taire et aux députés nationaux de tout faire pour obtenir les retraits purs et simples de la mesure portant moratoire des passeports électroniques. Donc nous demandons aux députés de tout faire en termes de conclusion pour obtenir les retraits de cette décision.
Merci. Jean-Marie Nkamboy, quelle est votre conclusion?
Confrère, je vais tout simplement constater que les provinces ont été créées pour notamment rapprocher les gouvernants des gouvernés. À ce jour, je me rends compte qu'ils sont effectivement dans les provinces. Malheureusement, les équipes quotidiennes de la population ne s'est pas améliorée. Comme pour dire que leur présence dans les provinces a été un échec et le processus, selon moi, a été précipité et qu'il faille que lorsque nous serons passés aux élections, avant de pouvoir installer les nouvelles autorités qui seront élues, que l'on fasse alors à ce moment-là la révision de tous les processus de la décentralisation afin que les grandes actions soient déclenchées.
Merci, cher confrère. C'est par vous que nous terminons cette émission. Réalisation Kéline Kouté, à la technique Mimi Kindou. Supervision Pélékipé Lamondo. Présentation et coordination Alain Rung Mouchige. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.